Afrique Matin. 9h30 à Paris, 8h30 en temps universel. RFI vous informe. Bonjour Xavier Besson.
Bonjour Juan, bonjour à tous. À la une ce matin, le Sénégal et l'ombre des violences politiques avant les élections législatives dimanche et après des heurts, notamment ce lundi, entre partisans du pouvoir et de l'opposition. Hier, le Premier ministre Ousmane Sonko a fini par appeler au calme après des premières déclarations qui allaient dans le sens inverse. Dans ce journal également, le Mali, finalement pas de remise en liberté pour les 11 cadres de l'opposition en détention depuis le mois de juin. Décision hier de la cour d'appel à Bamako. Et puis nous serons aussi à N'Djamena, où c'est toujours à distance que les Tchadiens doivent supporter leur équipe nationale de football, faute de stade aux normes. Et c'est à Abidjan que les Sao affrontent ce soir la Sierra Leone en qualification pour la prochaine CAN. 4 personnes placées en garde à vue à Saint-Louis, au Sénégal, à 4 jours maintenant des élections législatives. Et la police dit aussi avoir saisi notamment des armes après les heurts qui ont opposé lundi des sympathisants du PASTEF, c'est-à-dire le parti du président et du premier ministre, et la caravane de l'opposition Samsakadou, des violences qui étaient encore dans beaucoup d'esprit hier à Dakar, surtout après qu'Ousmane Sonko avait appelé ses partisans à se venger. Le premier ministre est revenu ensuite sur ses propos et a au contraire appelé au calme. Reportage de Léa Lisa Westerhoff à Dakar.
À 16h, ils sont plusieurs centaines déjà. Banderoles, verts, jaunes et rouges autour du cou, vuvuzela à la main, très remontés par les violences de la veille, comme Mami Touré de la jeunesse PASTEF.
C'est la troisième fois qu'on nous attaque, c'est trop en fait. Maintenant, on est venu pour leur montrer notre force, notre mobilisation, qu'on est plus nombreux, qu'on est plus investis que eux.
Venu de la banlieue de Parcelles-Assainie à l'appel de Sonko, cet étudiant va même plus loin.
Mais eux pour eux, temps pour temps, gatsa, non, non. Nous sommes plus nombreux qu'eux.
Mais partout, les forces de l'ordre sont bien présentes. Et lorsque la tension monte à l'approche du quartier du maire de Dakar, les gaz lacrymogènes calment tout de suite les ardeurs. Objectif, pas de grabuge, comme l'explique Biram Fall, militant du PASTEF.
Nous allons répondre dans les urnes. On va les battre au soir du 17 novembre. On va leur montrer que le Sénégal appartient à PASTEF et à Ousmane Sonko et le président Bassirou Diomaye Faye.
Et quand Ousmane Sonko arrive enfin, il n'est plus question de vengeance.
Je vous demande de vous concentrer sur la campagne électorale. Tout ce que j'ai déclaré, je vous demande de ne pas le prendre en compte. Ne provoquez personne, n'insultez et ne frappez personne. L'État fera son travail concernant les personnes arrêtées.
À voir si cet appel sera entendu pour les 3 derniers jours de campagne. Léa Lisa Westerhoff, Dakar, RFI.
Le Sénégal, par ailleurs, où l'Union européenne fait savoir qu'elle ne renouvelle pas son accord de pêche. Bruxelles met en avant des défaillances dans la lutte contre la pêche illégale, mesure qui a pour conséquence que dès ce dimanche, les bateaux européens ne pourront plus pêcher au large du Sénégal. Notez que dans le cadre de cet accord, l'UE a versé à Dakar 10 milliards de francs CFA depuis 2019. Leurs proches dénoncent une décision injuste et, disent-ils, purement politique au Mali. Pas de libération provisoire pour les 11 opposants, anciens ministres, dirigeants de parti, arrêtés il y a maintenant près de 5 mois, poursuivis notamment pour opposition à l'exercice de l'autorité légitime. En septembre, le juge d'instruction avait ordonné leur libération. Le procureur s'y était opposé et hier matin, la cour d'appel, à son tour, a rejeté leur demande, nous explique David Bachet.
Cette décision n'est pas juste et juridiquement, on ne la comprend pas, fulmine l'un des avocats des 11 cadres politiques détenus, maître Ibrahim Marouf Sako. Ce sont des chefs de parti d'un certain âge, développe l'avocat, qui ont tenu une réunion dans un domicile privé, qui n'ont pas fait de manifestation, qui n'ont pas posé de barricades, qui ne troublent en rien l'ordre public. Leur libération se serait faite sous contrôle judiciaire. Comment justifier leur maintien en détention, s'indigne encore l'avocat. À ce stade, les motivations de cette décision n'ont pas été transmises par la cour d'appel. Le dossier des 11 doit à présent être renvoyé devant le tribunal de la commune 5 de Bamako, dont le juge d'instruction avait ordonné la libération des accusés en septembre, avant l'opposition du parquet. Si de nouveaux éléments apparaissent, la défense pourra formuler de nouvelles demandes de libération dans l'attente d'un procès dont la date n'a toujours pas été fixée. C'est du dilatoire pour faire durer le supplice, commente un ancien ministre, membre de la déclaration du 31 mars. Ce durcissement du régime est un signe de fébrilité, analyse un autre. La justice malienne est caporalisée par les autorités de transition, conclut avec dépit un cadre de l'opposition.
David Baché au Niger, le ministère de l'Intérieur ne donne pas d'explication. Les militaires au pouvoir à Niamey retirent leur autorisation d'exercer à deux ONG, la nigérienne Action pour le bien-être et la française Acted, qui est présente au Niger depuis 2010.
RFI.
À quoi faut-il s'attendre aujourd'hui au Mozambique aujourd'hui et même demain et après-demain? Le principal opposant Venancio Mondlane appelle à 3 jours de manifestation, contestation toujours contre les résultats de l'élection présidentielle et la victoire officiellement de Daniel Chapo, le candidat du parti au pouvoir. Alors que depuis l'annonce des résultats, on estime qu'au moins 30 personnes ont été tuées dans la répression des précédents rassemblements de l'opposition. Le Somaliland est lui aussi dans l'expectative. C'est aujourd'hui que ce territoire du nord de la Somalie, indépendant de facto depuis 1991, tient son élection présidentielle. Alors que la campagne a été marquée là aussi par des violences et que récemment, l'armée a dû se retirer de la province de Sol dans le sud-est au profit d'une rébellion qui réclame le rattachement à la Somalie. Des annulations de vols en cascade, des passagers bloqués plusieurs jours sans solution à Madagascar depuis vendredi dernier. C'est le cas des clients de Madagascar Airlines, la compagnie nationale, qui font face à d'importantes perturbations. La faute à des pannes à répétition, à des retards aussi dans la livraison de nouveaux appareils. Difficultés passagères, promet le directeur général de la compagnie. Correspondance, Guillaume Fabry.
Fort Dauphin, Diego Suarez, Tamatave, Sambave et Tuléar, 5 escales sont principalement touchées par les perturbations. Lundi, 500 voyageurs étaient encore bloqués selon Thierry de Bailleul, directeur général de Madagascar Airlines.
3 avions ont été simultanément l'objet de immobilisation. Dans 2 cas, c'était pour des raisons imprévues. Dans 1 cas, c'était une maintenance obligatoire et réglementaire qui démarrait. C'est particulièrement rare en aéronautique d'avoir la conjonction de facteurs de manière aussi rapprochée.
Mais ces difficultés actuelles ne reflètent pas la dynamique de l'entreprise. Selon Thierry de Bailleul, Madagascar Airlines est en plein redressement, assure-t-il.
Les difficultés opérationnelles rencontrées dans ces derniers jours, c'est conjoncturel. Parce que la situation générale de Madagascar Airlines, depuis 1 an, s'est considérablement améliorée. Une ponctualité de janvier à octobre de 83%. Et nous avons fortement diminué, pour pas dire réduit à zéro, les pertes financières en 2024, alors que nous étions à 15 millions de pertes l'année dernière et 25 millions de pertes l'année d'avant.
2 avions de remplacement sont affrétés par la compagnie à partir d'aujourd'hui pour un retour à la normale promis d'ici la fin de la semaine. Guillaume Fabry, Antananarive, RFI.
Et avant de retrouver Juan Gomez et Tiken Jafakoli, les sports, début aujourd'hui de la dernière session d'éliminatoire pour la prochaine CAN de football. Cela veut dire que mercredi prochain, on connaîtra tous les qualifiés et le Tchad a encore une toute petite chance d'en faire partie et de jouer sa première Coupe d'Afrique. Il faudra commencer par s'imposer contre la Sierra Leone ce soir et pour cela, les Sao auraient bien aimé pouvoir compter sur leur public, mais c'est encore manqué puisqu'à N'Djamena, le stade Idriss Mahamat Ouya n'est toujours pas accessible. Conséquence, c'est à Abidjan que la rencontre a lieu et les supporters tchadiens sont déçus. Reportage à N'Djamena de Nesta Yamgoto.
Notre objectif, c'est de suivre le match ici à N'Djamena avec les Sao, les galvaniser. Et là, maintenant, c'est impossible pour nous.
Ils sont nombreux, les supporters des Sao, à exprimer comme Yves Dangourbé leur déception. Les portes du stade Idriss Mahamat Ouya restent désespérément close. Et cela, malgré l'engagement pris en septembre par le ministre des Sports de réouvrir l'enceinte au plus tard le 15 octobre. Ce retard contraint donc encore une fois les Sao à disputer leur match à domicile à l'extérieur du pays. C'est en Côte d'Ivoire que la sélection va affronter la Sierra Leone. Un match sans supporters ou presque.
Seule la Côte d'Ivoire nous donnait une certaine crainte. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Si on joue à domicile, on pouvait aller très loin dans cette compétition.
Pour que l'État tchadien fasse tout, ou bien le ministère de Sport, pour que les Tchadiens, les Sao puissent jouer ici à N'Djamena qu'on puisse également les regarder, vivre ce moment d'ambiance-là.
Le ministère des Sports rejette la faute sur l'entreprise de construction, tandis que cette dernière évoque des conditions climatiques difficiles pour expliquer le retard. Pour mémoire, le dernier match de Sao à N'Djamena remonte à septembre 2020 contre la Guinée. Depuis, la FIFA a interdit l'utilisation du stade. Elle ne donnera son feu vert que lorsque tous les travaux de mise en norme internationale auront été effectués. Nesta Yamgoto, N'Djamena, RFI.
Tchad, Sierra Leone, coup d'envoi à 20h, heure de Paris et de N'Djamena. Avant cela, il y aura eu deux autres matchs, Libéria-Togo et Namibie-Cameroun. Les Lions indomptables, vous le savez, Juan, qui sont déjà qualifiés pour la prochaine CAN.
Je sais pas. Merci beaucoup Xavier Besson, très bonne journée. Prochain grand rendez-vous avec l'actualité africaine.